Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, et je commence ce podcast par un petit toussettement car j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, Maxime.
Ben oui, depuis hier soir, c'est plutôt sympa comme sensation. C'est plutôt sympa de retrouver ce goût de la victoire qu'on avait oublié un peu avec l'Euro 2021. Faut jamais oublier que rien n'est jamais acquis et que c'est pas... Non mais que c'est pas normal.
Calme-toi.
Voilà,
calme-toi. Mais avant de parler de l'équipe de France, je voulais revenir remettre l'église au centre du village, Maxime. Non. L'église au centre du village. David Chambellan est venu nous chercher sur Twitter et a tweeté étonné que Martin Mosnier n'ait pas chambré Maxime Dupuis à ce sujet hier soir. Alors effectivement, je vois pas pourquoi je te chambrerais parce que c'est pas mon genre. Ah, mais Martin. 3 décembre 2022 dans le FC Stream Team, au bout de 11 minutes 46, l'Afrique placera un de ses pays en demi-finale. C'est une certitude, Maroc ou Sénégal.
Maroc ou Sénégal, on y est.
Je vais ajouter quelque chose, qu'avant la compétition, donc on ne parle pas du 3 décembre, hein, avant la compétition, donc il y a 6 mois et demi,
oui.
J'avais écrit un article disant c'est au tour de l'Afrique et il y aura une équipe africaine en demi-finale qui sera soit le Sénégal, soit le Maroc. Et j'avais ajouté pour me donner un tout petit peu plus de chance, j'avais aussi rajouté le Cameroun.
Bon, oh, les scocris sur pattes.
Voilà, il s'avère que le Maroc est là et que c'est une surprise pour tout le monde, mais que moi, si on m'écoutait un peu plus dans cette rédaction, je pourrais vous dire qu'il y aurait un peu plus de. Que le site marcherait mieux, tout simplement.
Alors, le site marche bien, merci pour lui. mon honnêteté me pousse à dire qu'en effet, tu es un fervent défenseur du football africain, et que tu en as parlé, tu m'as saoulé, on va le dire, avec le Sénégal depuis le tirage au sort, en vrai. Mmh. En revanche, la séquence susdite sur laquelle tu parles du Sénégal et du Maroc, je l'ai ici, parce que je l'ai réécouté, évidemment. Et,
non, 17h01, j'étais... Bravo Martin.
Écoutez bien.
Merci beaucoup. Okay, je suis pris au dépourvu. Mais de toute façon, l'Afrique placera un de ses pays en demi-finale. C'est une certitude. Voilà, Maroc ou Sénégal.
Qui serait pas forcément une bonne.
Maroc ou Sénégal, on compte sur vous. Donc ça s'appelle une.
Non,
mais c'est pas une conviction. C'est dire, allez, peu importe lequel.
Mais qu'est-ce que tu viens de montrer? Là, tu viens de mettre de l'eau à mon moulin. Je l'ai dit. Voilà.
On compte sur vous, c'est pas le Maroc ira en demi-finale. Mais bon, non, mais encore une fois.
J'ai dit, s'il y a une certitude, c'est que le Sénégal ou le Maroc sera en demi-finale. Ouais. Le Maroc est en demi-finale. Excusez-moi d'avoir vu juste.
Et
Maxime,
et vous
là, je sais que. Il y a le sol qui se dérobe sous tes pieds. Parce que toi, qu'est-ce que tu nous dis depuis 2 mois? Que l'Allemagne va gagner cette Coupe du Monde.
Ce qui est
que
formidable.
L'Allemagne, c'est la grande Allemagne. Que l'Allemagne, c'est meilleur que tout. Voilà. Moi, je misais sur le petit pousset, sur le Maroc. Il s'avère que je connais un tout petit peu plus le football que toi.
Et j'espère.
J'ai pas besoin de convaincre les auditeurs parce que s'ils nous écoutent régulièrement, ils en sont déjà convaincus.
J'espère que tu vas nous le montrer sur tes papiers sur le Maroc pour nous analyser le pourquoi du comment ils sont en demi-finale et pourquoi tu l'as vu venir depuis 6 mois. Avant même que Walid Regragui soit en poste.
Évidemment, j'y croyais des vibes.
Ouais, bravo. non, mais en plus, vous savez quoi? Ça, c'est le karma, vous savez ce qui m'est arrivé. Parce que la séquence que je vous ai fait écouter, elle part de quoi? D'un mauvais geste que j'ai fait dans la rédaction. Parce que Martin, c'est lui qui le fait d'habitude, il avait laissé sa boîte mail ouverte. Et j'ai envoyé un mail en parlant de ça, en rigolant de ses convictions. Finalement, ça m'est revenu en plein dans la face. Donc il faut toujours être gentil.
Exactement. Donc le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est sans doute une surprise pour 99,99% des Français. Je fais partie des 0,01 du coup. Le Maroc affrontera la France en demi-finale de la Coupe du Monde. Et on va parler de ce choc. On va surtout parler des Bleus.
Ouais, je regarderai tes pronos sur les matchs du Maroc depuis le début du premier tour sur MPP pour voir si t'as mis
MPP, j'ai mis 1-0 face au Portugal. Donc j'ai doublé mon score, Maxime.
Ah oui, c'est vrai.
J'ai mis
là...
140
oui,
points.
Mais oui,
ah,
parce que...
mais voilà,
ah,
mais voilà.
Ah mais oui.
Et puis, bah,
non, mais c'est parce
tout.
Qu'il est tellement loin qu'il tente les cotes incroyables.
Mais moi,
parce
je te parle
que
pas de
MPP. Bon,
je te parle pas des tout petits scores. Combien fait l'Arabie Saoudite contre je sais pas qui, États-Unis bidule. Moi, je te parle des grandes trajectoires, des grandes dynamiques.
L'histoire, la grande histoire.
Voilà, les grandes dynamiques du football mondial. Alors évidemment, j'ai peut-être pas le score de Zimbabwe-Bangladesh, mais on s'en fout.
Ça, moi, c'est condescendant.
Ouais. Non, c'est pas condescendant. Moi, je vois le coup d'après.
Voilà. On te demandera quand même mardi soir ton pronostic sur France-Maroc. Non, mais alors, la grande histoire, c'est quand même de toute façon celle qui va s'écrire sous nos yeux, parce qu'en effet, France-Maroc, c'est sans doute la demi-finale en raison, alors peut-être pas pour toi, mais c'est peut-être la demi-finale la plus improbable de l'histoire, au moins récente des 60 dernières années, parce qu'une équipe africaine en demi, c'est incroyable. Un champion du monde qui revient aussi, c'est pas si crédible que ça, au vu de ce qu'on avait eu droit au début du 21e siècle. Donc c'est formidable, et on va se poser la question, on va quand même se pencher sur l'équipe de France, et on va essayer de parler du joueur qui, selon nous, est le plus important depuis le début de cette Coupe du Monde, pardon, pour l'équipe de France. On va essayer de le définir.
Tout à fait. Et j'ai un trou pour le deuxième sujet.
Ah voilà. Ah mais là, il était parti. Non, mais je vais y aller.
Non, mais là, moi, je suis entre Casablanca voilà, et Rabat. Voilà. Là, je mange un tagine à Marrakech.
Ah oui,
là,
t'es vraiment bien à l'ouest.
Ouais, voilà, moi, tu me parles des Bleus, mais...
Alors,
voilà,
France-Maroc,
je suis dans
justement, ça
je suis dans les nues dunes de Merzouga. Ça y est, je suis parti. Je suis à Gazir, là, sur une serviette en train d'enlever mon pantalon pour aller me baigner, tu vois.
France-Maroc, ça va donner du
grain à moudre. Et Saouira, magnifique ville des Saouira, la perle de la Méditerranée.
France-Maroc, pour toi, est-ce que d'ores et déjà, quoi qu'il arrive, la Coupe du Monde des Bleus est réussie? Est-ce qu'une défaite mardi en Coupe du Monde, mercredi pardon, en demi-finale, gâcherait le bilan? Ou est-ce que pour toi, déjà, ce qui a été fait, c'est formidable?
Voilà.
Et le troisième sujet,
le troisième sujet
pas
bien sûr que si, les remplaçants.
Voilà.
Les remplaçants. On va se poser la question. Effectivement, hier, Didier Deschamps n'a fait qu'un remplacement. Le banc n'apporte rien sur cette Coupe du Monde. Et on va se demander, est-ce que c'est un vrai problème ou est-ce que c'est un faux débat?
Alors, ce qui est formidable, c'est que si vous avez écouté cette émission, si vous en êtes là, vous connaissez quand même les sujets puisque vous avez lu le sommaire sur votre plateforme de podcast. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour vous, parce que si vous avez retenu ce qu'on a dit depuis 1 minute 30, c'est que vous êtes
On est un peu parti dans tous les sens, mais on va se discipliner. Comme l'équipe de France face à l'Angleterre, on va être carré.
L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Grâce à qui? Grâce à un collectif incroyable, grâce à des individualités aussi. Martin, si tu ne devais en retenir qu'une, laquelle serait-ce?
Pour moi, le meilleur joueur de l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est évidemment, et je ne comprends même pas la question, Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'on a une mémoire de moineau, parce qu'il a bien été cadenassé face à l'Angleterre. On oublie. Et on se dit, alors qu'il y en ait d'autres, c'est une évidence. Mais enfin bon, un joueur qui a marqué 5 buts en, j'allais dire 5 matchs, mais bon, 4 matchs et quelques. Un joueur qui a marqué un doublé contre le Danemark, qui a marqué un but pour le premier match, qui a été décisif face à la Pologne, qui a permis quand même aux Bleus d'arriver jusqu'en quart de finale. Alors oui, son quart... il est bien muselé, donc forcément, on en parle un petit peu moins. Mais cette équipe reste, pour moi, dépendante à 80%, comme je dis depuis le début de cette compétition, de Kylian Mbappé. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'autres solutions. Mais en revanche, quand on se retournera sur cette Coupe du Monde, on se souviendra d'abord que c'est la Coupe du Monde des Bleus d'Mbappé.
Alors, quand tu parles de mémoire de moineau, j'imagine que tu ne me vises pas comme les poissons rouges, parce que il me reste encore un truc, c'est la mémoire.
Oui, elle décline quand même.
Et je pense que le joueur le plus important de cette équipe aujourd'hui, et ce n'est pas seulement lié hier, parce que c'est le début du tournoi,
le meilleur, hein,
c'est
le plus
Antoine
important, le meilleur.
Griezmann.
Okay.
Parce qu'évidemment, il y a la finalité, et je vais te donner du grain à moudre direct. C'est-à-dire que vous prenez le premier but, si Mbappé ne se sort pas du marquage des trois Anglais, qui ne fait pas son débordement, qui n'évite pas
c'est
le
séchage en règle ça, enfoiré.
De Declan Rice, il n'y a pas le but derrière. N'empêche que, encore une fois, moi, c'est vraiment, j'ai envie de rendre... C'est terrible de dire ça, c'est au joueur de l'ombre, mais c'est le plus lumineux des joueurs de l'ombre de l'histoire des Bleus, là, aujourd'hui, Antoine Griezmann, ce qu'il fait. Il tient l'équipe sur ses épaules. Faut imaginer que dans l'histoire des Bleus, il n'y a pas eu un grand joueur qui a été replacé comme ça, qui a changé de carrière, on va dire, dans sa vie. Alors, on pourrait parler de Lilian Thuram qui est passé de droite à l'axe, mais bon, pas avec la même réussite, même s'il tient, il tient le job. Et quand il est passé à droite, au début, c'était au début de sa carrière, parce qu'il n'y a pas de place dans l'axe. Non, ce que fait Antoine Griezmann est fondamental. Et je pense sincèrement, en fait, je suis incapable de le dire, parce que je pourrais très bien vous dire aussi que sans deux buts de Mbappé, les Bleus seraient peut-être en demi-finale. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de faire, c'est exceptionnel. Je pense qu'il fait vraiment un tournoi exemplaire et d'exception. Et ces deux, on va dire, Mbappé et Griezmann sont deux facettes d'une même réussite. C'est-à-dire qu'il y en a un qui empile les stats, on a besoin de ça, et l'autre qui fait ce travail qui est incroyable d'équilibre. On l'a dit d'ici depuis le début, j'étais le premier à le dire. Il a un rôle hybride, on n'a pas toujours bien compris ce qu'il faisait, il est plus près du but, il participe à cet équilibre précaire sans lui ça ne tiendrait pas, et pour moi je le dis, il tient vraiment l'équipe de France sur ses épaules, il fait un tournoi exceptionnel.
Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais même face à l'Angleterre finalement, le traitement de faveur qui a été accordé à Kylian Mbappé,
ah oui,
finalement explique aussi ce qui s'est passé derrière, parce que ça libéré évidemment, parce qu'ils étaient 1, 2, voire 3 parfois sur Kylian Mbappé. Alors le plan a marché, ça il n'y a aucun problème, mais ça a libéré un petit peu de milieu de terrain, ça a libéré un petit peu de Griezmann et Dembélé qu'on a beaucoup vu dans les 20 premières minutes du match. Donc de toute façon, ça tournera toujours autour de Mbappé. Et si moi demain on me demande s'il fallait enlever soit Griezmann, soit Mbappé de cette équipe-là, je pense que ce serait grave d'enlever Griezmann, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je pense que ce serait tout de même moins grave d'enlever Griezmann de ce 11-là que d'enlever Mbappé, qui est ta menace offensive numéro 1, qui est ton danger numéro 1, qui fait cauchemarder l'adversaire. Je pense que quand tu rentres avec Mbappé, tu as déjà un avantage sur ton adversaire. Je ne dis pas que Griezmann n'est pas plus important pour le collectif, pour l'équilibre, ça c'est une évidence. Mais in fine, ce qui t'amènera à cette troisième étoile, je pense que ce sera plus un Kylian Mbappé, même aussi imparfait soit-il dans ses matchs, et même face à la Pologne, c'est très imparfait, mais qui fait gagner les grands tournois, qui fera gagner ce grand tournoi, ce sera Kylian Mbappé.
Parce que depuis 20 ans, ce qui fait gagner, c'est le collectif.
Oui, mais c'est pour ça que je me suis surpris, parce que je savais que tu allais dire ça.
Ouais, tu vois, toi aussi, t'as de la mémoire. Non, mais moi, honnêtement, je suis incapable. Attends, laisse-moi. Je suis incapable. Je pense que l'équipe de France ne serait pas championne du monde. On n'est pas champion du monde, encore une fois. Ne pourrait pas être champion du monde sans Griezmann. C'est sans doute le cas aussi avec Mbappé.
Oui, mais je pense que si tu retires
Griezmann de cette équipe-là, je pense qu'il manque trop de choses, et je pense que les ballons ils arrivent moins vers Mbappé. Le match d'hier, et encore une fois, c'est tout le mérite, et ce que j'ai aimé dans le match Mbappé, c'est-à-dire que là, je pense sans doute qu'il a compris très vite que la décision pouvait passer par lui, parce qu'évidemment, sur un geste, il peut faire différence, mais qu'elle passerait possiblement pas par lui, et qu'il s'est fait à cette idée, et qu'il a œuvré pour le bien du collectif. Encore une fois, sur l'action dont je parle tout à l'heure, sur le but de Tchouaméni, je pense que quand Declan Rice essaye de le sécher, moi, ce que j'imagine derrière, il va mettre une mine du droit. Parce que là, il va lui montrer, t'as essayé de me sécher, je vais y aller. Eh ben non, il a l'intelligence de la donner. Je crois que c'est lui qui la donne à Griezmann. Griezmann la donne à Tchouaméni, ça fait but. Donc là, il y a aussi ça. Maintenant, je pense que sans Griezmann hier, parce qu'il faut quand même rappeler que ce match-là, hier, il est loin d'être parfait. C'est pas un hold-up. On a parlé de miracle. Entre le miracle et hold-up, on n'est pas loin de ça. J'ai regardé les fautes que fait Griezmann, on s'est dit que c'est une équipe qui n'était pas très disciplinée, hier qui fait beaucoup de fautes, et bien ces quatre fautes sont un modèle d'intelligence. Ils cassent à chaque fois des remontées de ballon, et si les Anglais ne peuvent pas mettre les transitions, c'est parce qu'il est là. Alors évidemment,
le mec fait les questions, les réponses.
Ça ne comptera jamais autant qu'un but, parce que de toute façon, la finalité
du... Il vaut mieux quatre fautes contre l'Angleterre ou deux buts contre la Pologne.
La finalité du... Ah bah je peux te dire que si ça se trouve qu'il y a un 0, ce que je veux dire par là, c'est que la finalité du foot, ce sera toujours de marquer un but. C'est toujours les joueurs qu'on voit le plus. On est les premiers à le regretter, dire les ballons d'or, c'est les mecs qui marquent, etc. Et au fond, c'est ce qu'il y a aussi sans doute de plus difficile. On sait que détruire, c'est peut-être plus difficile, c'est peut-être plus facile entre guillemets que construire. Sauf que Griezmann, il détruit, il construit. Il fait la pluie et le beau temps sur cette équipe, donc c'est fantastique. On a la chance d'avoir deux joueurs comme ça, c'est exceptionnel aussi.
Moi, je vais te dire qu'une chose, et je terminerai là-dessus, sur une analogie. Pour moi,
ça va trop loin.
le Mbappé de France 2022, c'est le Ronaldo de Brésil 2002. Et si tu me dis que Ronaldo n'était pas le joueur le plus important du Brésil 2002, bah écoute Maxime, je rends mon tablier, je ferme mon micro, j'éteins le studio, je te dis bonsoir, bonne nuit et je vais me coucher dans mon duvet.
Alors, parce que je dors dans Ronaldo était... bon, ça va rien expliquer après. Ronaldo est évidemment le joueur le plus important du Brésil 2002, mais il y a aussi les autres R de cette équipe. Ronaldo, Rivaldo. Il y a aussi une défense dont on a oublié qu'elle était plutôt bien choc.
Putain, je l'ai lancé sur
le
Brésil 2002.
Et je pense que cette équipe du Brésil 2002 a moins besoin d'un Griezmann, tout simplement. Voilà. C'est la dernière grande équipe qui a gagné sur des individualités. Et je pense que cette équipe de France-là, aussi importante soit Mbappé, je ne suis pas sûr qu'elle soit championne du monde. D'ailleurs, on est... L'équipe de France n'est pas championne du monde. Il faut quand même le rappeler, on est juste en demi-finale. Parce que là, on est en train de s'enflammer un peu.
Là, il y a de l'enflammade. Mais moi, voilà. Je n'ai jamais dit ça. Je dis juste que.
Mais en tout cas, au non, mais je pense.
À l'instant T.
Je pense que cette équipe n'irait pas au bout sans Griezmann.
Ah, mais ça, moi aussi. Mais elle ça serait veut pas
peut-être
dire
là. Oui. Elle serait peut-être là, possiblement. Mais je pense qu'on. On verra jamais l'importance qu'a ce joueur.
D'ailleurs, on n'est pas encore champion du monde.
Ouais, ça, ça commence à la foutre mal. On est en train de parler de titre alors qu'il y a deux matchs. Il reste le Maroc et un double problème après, possiblement si ça passe.
Exactement. Donc la France n'est pas championne du monde. Et si tout s'arrête en demi-finale, est-ce que cette Coupe du Monde sera réussie? Qu'est-ce qu'on retiendra du mondial, la demi-finale ou la sortie de route face au Maroc, le côté pile ou le côté face? Maxime, on s'est déjà posé cette question après les huitièmes. On va se la reposer après les quarts. Maxime, le tournoi des Bleus est-il d'ores et déjà réussi?
Il est bien parti, il n'est pas réussi. L'équipe de France a fait ce qu'on... Je ne sais pas si c'est ce qu'on attendait d'elle, parce qu'on l'a dit, il y a eu suffisamment de problèmes avant le tournoi, dans les semaines qui ont précédé, même les mois. Elle est en demi-finale, c'est déjà un accomplissement XXL, et Didier Deschamps peut avoir une forme de satisfaction du devoir accompli. Or, le devoir accompli, il est dans deux matchs au final, c'est-à-dire de gagner un deuxième titre de champion du monde d'affilée, une troisième étoile qui serait évidemment exceptionnelle. Il ne faut pas se mentir, Didier Deschamps a beau dire le Maroc, ce n'est plus une surprise sur ce tournoi. Il n'a pas tort, mais il n'a pas complètement raison non plus. C'est-à-dire que le fait de jouer le Maroc en demi-finale, la peau du favori, de l'équipe qui a le plus à perdre en demi-finale, ce sera l'équipe de France. Et si l'équipe de France se faisait sortir par le Maroc, ce serait incroyable pour le Maroc, qui en finale, ça, ce serait vraiment la surprise du siècle. Mais on ne pourrait pas s'empêcher de penser que cette équipe de France a pêché quelque part. Parce que, bah oui, sur le papier, sur le terrain, ce n'est pas toujours la même chose, mais sur le papier, il se trouve que l'équipe de France est favorite. Et j'estime, et j'imagine qu'à la lecture de ce qu'on aurait, hormis si le Maroc gagne 4-0 contre les Bleus, que le Maroc est champion du monde derrière, peut-être qu'on dirait, ah oui, on a été victime d'une génération incroyable et du premier champion africain de l'histoire. Mais à cette heure, on ne peut pas encore avoir cette grille de lecture et il est difficile d'imaginer que mardi soir, mercredi soir, à 23h, ou peut-être un peu moins, peut-être 20-22h, on se dirait, bravo quand même les Bleus, ça me paraît quand même assez inimaginable à cette heure-là.
Oui, parce que je suis d'accord avec toi, il faut bien se rendre compte des forces en présence. Si ça avait été la France 2014, après 4 ans compliqués, qui arrive en demi-finale face au Maroc, une équipe sans aucune référence actuelle, mais même passée en Coupe du Monde, ça n'aurait peut-être pas été les mêmes enjeux. Mais là, on est sur une équipe qui, on l'a suffisamment répété depuis hier, bon, déjà est championne du monde en titre, fait finale de l'Euro 2016. On est sur des stars internationales, etc. Face à un Maroc qui n'a jamais rien gagné en Coupe du Monde, qui n'était même jamais allé en quart de finale. Donc effectivement, perdre en demi face au Brésil, même face à l'Argentine, face à l'Espagne, face au Portugal, même d'une certaine façon face à l'Allemagne en début de tournoi, c'était beaucoup plus acceptable. Et finalement, l'équipe de France ne s'est jamais retrouvée dans cette situation-là face à une équipe aussi petite, entre guillemets. Elle a grossi au fil de la compétition, mais bon, si on les prend au tout début du tournoi, le Maroc ne pèse pas grand-chose. Et donc, une sortie de route, même en demi-finale face au Maroc, resterait pour moi un échec, compte tenu du pédigré des Bleus, compte tenu du pédigré du Maroc, et même compte tenu de ce qui s'est passé jusqu'ici.
Dans l'histoire de l'équipe de France, les Bleus n'ont jamais eu une telle pancarte sur le dos. C'est presque une nouveauté. Les demi-finales de la Coupe du Monde, c'est le Brésil en 58, c'est l'Allemagne deux fois. La Croatie, c'était une surprise, mais regardez l'équipe de Croatie. C'est quand même d'abord Šuker et compagnie, Prozinecki, c'est des joueurs quand même qui faisaient déjà autorité sur le sol européen et notamment sur les hauteurs des Coupes d'Europe. Le Portugal, c'est le Portugal. La Belgique, c'était une Belgique quand même qui.
C'était une génération fantastique.
Voilà, la fameuse génération dorée qui n'était pas tant que ça, mais qui quand même était fantastique. Là, c'est. Sur le papier, je dis bien, c'est la demi-finale la plus déséquilibrée et peut-être la demi-finale où les Bleus ont le plus à perdre dans leur histoire. Parce que je pense que si vous faites un sondage dans la rue. Même des fans de foot, ils vont vous dire, bah oui, normalement, ça doit passer. Alors évidemment, c'est une défense de fer. C'est une équipe qui est en train de faire un tournoi incroyable, le Maroc. Et comme l'a dit Didier Deschamps, au fil du temps, on se dit, bah non, sur le tournoi, c'est plus une surprise. Mais n'empêche que la pancarte n'a jamais été aussi grosse. Et finalement, c'est peut-être la pression qui en découle qui va être exceptionnelle sur les épaules des Bleus.
Et d'ailleurs, peut-être que la décision de Didier Deschamps à l'issue de cette demi-finale, s'il la perd, n'aurait pas été la même. Si
exactement.
Tu la perds contre le Brésil, que contre le Maroc, est-ce que tu peux rester en poste un an après avoir perdu contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro, si tu perds en demi-finale face au Maroc? La question est beaucoup moins évidente que si ça avait été le Brésil. Donc rien que ça, déjà, ça dit, parce qu'on mesure aussi la réussite d'un tournoi au futur du sélectionneur. Et moi, cette question, elle ne me semble pas évidente. Je ne suis pas certain que la France... à peu près sûr que la France ne réussira pas son tournoi si elle perd en demi-finale face au Maroc.
Non, mais en plus, évidemment, on dit toujours, oui, tout dépend des circonstances, etc. Mais en fait, à un moment, si le Maroc fait le match parfait, qu'il bat les Bleus, ce sera tous à son honneur, à son crédit, mais au passif de Deschamps, ce sera énorme. Ça voudra dire... Le sélectionneur n'a pas été capable de trouver les solutions face au Maroc. Le sélectionneur qui a Mbappé dans ses rangs, qui a Griezmann, qui a Varane, qui a Lloris, qui est ce que vous voulez, qui est champion du monde en titre, n'a pas trouvé les solutions. Et ça sera forcément au passif de Deschamps, quelle que soit, je dirais, la performance du Maroc.
Et puis ce qui est difficilement audible aussi, c'est qu'à un moment donné, d'un côté, tu as des stars internationales, du PSG, de l'AC Milan, de Manchester United, du Real Madrid, oui aussi, enfin voilà. Et que de l'autre côté, tu as quand même des joueurs. Alors, tu as un joueur, Ziyech, effectivement, qui est dans un grand club international, mais sinon, ce sont quand même. Il y a six joueurs de Ligue 1.
De Ligue 1.
Et la Ligue 1, c'est Angers, c'est Brest, c'est Toulouse. C'est pas Paris. C'est pas Marseille. Qu'est-ce qui se passe, Anne ? Ah oui, il y a Hakimi, c'est vrai, il y a Hakimi du PSG. Ah oui, il y a Hakimi, effectivement. Donc, tu as un côté droit. Mais c'est quand même, ça pèse pas bien lourd quand tu regardes en face le 11 de l'équipe de France. Donc, il y a ça aussi, un moment qui sautera à la gueule des Bleus. Bah, s'ils tombent.
Voilà. Bah, on espère qu'ils tomberont pas, évidemment.
Moi, un Maroc en finale, ce serait sympa aussi.
Mais j'ai dit, ce serait l'histoire du siècle. Ce serait exceptionnel et...
Ah, ce serait. Bon, enfin,
On n'en est pas là,
mais toutefois, si la France. Mais... Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais si le Maroc est champion du monde, c'est incroyable.
Ah non, mais là. Non, mais là.
T'as dit le Maroc, potentiellement, qui ferait tomber donc la France en demi. Imaginons que l'Argentine aille en finale et que c'est le Maroc. Oui. Qui gâche la destinée finale de Lionel Messi.
Non mais là, si c'est Argentine, France, Portugal, Espagne, Belgique, là ils le méritent. Là je leur mets même deux étoiles.
Ah oui.
Je leur donne pas qu'une, je leur donne deux coupes du monde d'un coup parce que ce serait fou. Et Maxime boit son petit café. Ah c'est une première. On est dans le studio. Donc là il est 19h07 et le mec il se boit son petit café.
Il fait froid aussi.
Ouais mais tu te bois ton petit café.
Ah ouais, là il fallait. Là.
Tu t'es cru où là?
Bah écoute,
respecte l'émission, respecte.
Bah, c'est le moment.
Tu vois que ça s'entend pas quand regarde. Ouais. Quand tu mets la tasse sur la table, ça s'entend.
C'est le moment qui n'est pas filmé.
Ouais, c'est le moment qui n'est pas filmé, mais on l'entend quand même. C'est pas possible.
Ouais, mais on est bien parce qu'on est bien. On est bien.
Non, mais...
on est entre nous.
Ouais, mais on est entre nous. Là, c'est la fin de la Coupe du Monde. Donc, le mec, je vous rappelle quand même, il y a une semaine, il était chemise, tirac à tépingle, machin. Là, il est pas rasé, sweat à capuche, en train de boire son café. Tu l'as fini comment cette Coupe du Monde, Maxime?
Je sais pas.
Non, mais moi non plus. Déjà, il faut la finir. C'est le premier objectif, Maxime. C'est le premier objectif.
Et c'est à la fin qu'on saura si elle est réussie ou pas.
C'est vrai. Ce qu'on sait, c'est que le banc de l'équipe de France, lui, a beaucoup de mal à exister dans cette Coupe du Monde. Et c'est un doux euphémisme. Un seul remplacement en quart de finale de Coupe du Monde, puisque Kingsley Coman a remplacé Ousmane Dembélé. C'est, et on en a déjà parlé dans cette émission, une constante quand même depuis plusieurs années, que l'équipe de France, que le banc de l'équipe de France n'apporte rien, notamment en termes offensifs, ne fait jamais basculer une rencontre en fait. Maxime, est-ce que c'est un problème aujourd'hui ?
Alors, la logique du banc qui est... Il y a une dichotomie entre les titulaires et les remplaçants. Elle est poussée à son paroxysme là. Un seul remplacement en quart de finale de la Coupe du Monde, alors que depuis 2 ans, vous le savez, on a le droit, Covid oblige, mais c'est resté, à 5 remplacements. C'est-à-dire que Didier Deschamps a 5 cartouches. Alors, oui, pour être tout à fait juste, Marcus Thuram était en maillot, il était sur le bord de la touche, il n'y avait plus qu'à lever le panneau pour le faire entrer, et Giroud a marqué, ce qui a valu d'ailleurs une joie qui était très expressive de Marcus Thuram, qui est retourné s'asseoir sur le banc avec le sourire. Voilà. Mais c'est quand même exceptionnel de n'avoir qu'un remplacement en quart de finale de Coupe du Monde. Mais finalement, Didier Deschamps pousse jusqu'au bout sa logique de 2018, c'est-à-dire que où en 2018, dès les huitièmes de finale, il organisait des réunions avec juste les titulaires, prenait le risque, qui n'en est finalement pas un, de se couper de ses remplaçants pour mettre les titulaires dans cet état de j'allais dire, de, comment dire, c'est une forme de confiance en eux, ouais, leur dire « Vous êtes ceux qui doivent nous monter tout là-haut, et les autres, bah, soyez prêts si c'est possible. » Alors, il y a un risque là-dedans, évidemment. Et surtout dans cette équipe, plus que 2018, pour moi, c'est que s'il y a un pépin, on touche du bois, les Bleus n'en ont pas eu depuis la 9e minute du premier match avec la grave blessure de Lucas Hernandez. Il n'y a pas eu de suspension, alors que des fois, bon, le deuxième carton, prenez Jules Koundé. Si avec sa chaîne, il prend un deuxième carton, il est suspendu pour le match après. Et là, c'est problématique. Le risque que prend Deschamps, c'est justement de se couper d'une partie de ses joueurs et de donner l'impression que finalement, ce sont des GO. On les voit, ils sont contents, ils vivent une expérience complètement incroyable. Je pense qu'aucun n'échangerait ce qu'il est en train de vivre. Et c'est aussi pour ça, souviens-toi Martin, quand il avait des problèmes avec Olivier Giroud de remplacement, c'était pour pas avoir ce joueur qui vivrait mal ce statut de remplaçant. Là, il les a, c'est parfait. Mais c'est parfait, bah, tant que ça fonctionne, et pour l'instant ça fonctionne, et on peut prier pour le coup, pour que ça aille au bout comme ça, parce que sinon ça pourrait être compliqué. Imaginez par exemple que Théo Hernandez se blesse.
Les équipes qui ont des effectifs incroyables, je pense au Brésil, je pense au Portugal, qui pour moi, voilà, ne sont plus là. Alors, ils faisaient rentrer Rafael Leão en fin de match, c'est absolument extraordinaire, ou ils faisaient rentrer Bruno Guimarães. Bon, ça s'est arrêté. Donc, la France est en demi-finale avec 11 joueurs, si on caricature un tout petit peu. Est-ce que c'est un problème ? Moi, je ne suis pas certain. Il faut se souvenir qu'en 2018, ce qui est rentré en jeu, c'était alors certes Ousmane Dembélé, mais un Ousmane Dembélé qui n'avait pas le volume d'aujourd'hui. C'était aussi un Nabil Fekir qui, globalement, ne servait pas à grand-chose. C'était un Steven Nzonzi. C'était un Benjamin Mendy et un Djibril Sidibé qui étaient complètement hors de forme. C'était sur le banc un Adil Rami qui a même refusé d'entrer en jeu en finale de la Coupe du Monde tellement il avait peur. Donc le banc de 2018, c'était déjà un sacré carnage. C'est allé au bout. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème. En fait, c'est le banc et la variable d'ajustement de Didier Deschamps pour l'équilibre du groupe. Voilà, tu as parlé de Giroud, c'est un très bon exemple. Mais alors, on peut remonter à 2014 avec Payet. On peut remonter à, voilà, à chaque Coupe du Monde. Bah, tu as cette individualité dont tu t'es passé, mais qui finalement fait que l'écart est immense entre le banc et le 11 titulaire. Là, je ne vois que Coman qui pourrait rentrer à la limite et qui a la stature, il joue au Bayern Munich, il a un passé avec cette équipe de France, qui pourrait rentrer dans son sans aucun problème. Effectivement, il faut croiser les doigts parce que s'il y a des soucis comme à l'Euro 2021, là, ta stratégie, elle te pète au front. L'anglais te flingue un euro, c'est pas le seul, il y en a eu d'autres. Et voilà, tu te retrouves le bec dans l'eau.
Et là, en plus, les choses sont très claires. C'est-à-dire que Didier Deschamps, potentiellement, sur le banc, il a 14 solutions. Bon, je compte les gardiens aussi par principe. Mais...
En fait, il en a 3.
Voilà. Et en fait, c'est même pas du coaching d'ajustement. C'est-à-dire qu'il ajuste ses forces en présence. Et à un moment, il envoie du 109. Alors, c'est Thuram pour Giroud. C'est Fofana pour Tchouaméni ou pour un autre. Et ça va être Coman pour Dembélé, en gros. Et il y a eu Konaté, mais ça, c'était plus... Je pense qu'on ne reverra pas de changement en défense centrale.
C'est vrai. Mais j'ai été dur quand j'ai dit Coman, parce qu'effectivement, il y a Konaté aussi qui a prouvé qu'il avait quand même l'épaisseur.
Ce qui est assez fou là-dedans, c'est que les autres, il faut arriver à les garder concernés. Matteo Guendouzi, il est vraiment concerné par l'aventure, mais il ne peut plus être concerné par le terrain.
Ah non.
Mais à la rigueur, je pense que lui, ça ne l'embête pas. Ce qui pourrait être embêtant, c'est que demain, on lui dise « Écoute, faut y aller, là. »
Ah non, 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 là, je peux pas, coach.
Et c'est plus ça, voilà, parce que je pense qu'ils sont dans un état d'esprit. D'ailleurs, l'état d'esprit, il est formidable, même à William Saliba. Je pense que, je ne vais pas dire qu'il échangerait pour rien au monde, parce qu'évidemment, si vous pouvez jouer les premiers rôles en Coupe du Monde, vous le faites, mais l'aventure est extraordinaire et elle dépasse tout ça.
Et puis ces mecs-là, ils ont tous joué, apparemment.
Oui, voilà.
Donc, finalement, ils ont pris part à quelque part. Ils ont quand même leur nom gravé quelque part, quoi. Sur une feuille de match, ils ont joué un match de Coupe du Monde.
Mais vraiment, le match d'hier, c'est j'exagère aussi quand je dis qu'il y en a eu, il y en a eu qu'un sur le papier, mais s'il n'y a pas ce but sur un brand, si Kane égalise, il y a prolongation et il y a du coaching à un moment. Donc c'est vrai que là en plus on est dans un match à un moment où Didier Deschamps s'est dit non non, mais la meilleure des solutions c'est de ne pas coacher, peut-être le meilleur coaching que l'on fait parfois c'est de pas en faire, et là pour le coup c'était ça, mais il serait venu après. Mais ça dit combien Didier Deschamps a confiance en ce 11, et ce qui est d'ailleurs la meilleure des choses, parce que après tout c'est quand même une équipe, un 11 qui va gagner une Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit risque là qui, tu l'as dit depuis le début, notamment sur la liste, qui est déséquilibrée. Il faudrait pas, quand il y a des postes qui seraient plus graves,
oui,
de perdre dans les titulaires, parce que là on se rendrait compte vraiment du déséquilibre de la liste. Et pour l'instant ça fonctionne, ben, on croise les doigts pour que ça aille au bout comme ça, mais c'est vrai que mais c'est une corde raide quand même.
Ouais, puis Didier Deschamps, il tire quand même des leçons de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'en 2018, on en a parlé. En 2016, le banc aussi, il est assez peu mis à contribution. Et quand il rentre, je pense à Coman et je pense à Martial qui rentre très souvent. Je pense à Gignac aussi avec ce poteau qui aurait pu changer le destin des Bleus. Mais ça bascule jamais. C'est-à-dire que le coaching, à chaque fois, c'est neutre offensivement. Défensivement, peut-être un peu moins. Je pense à Umtiti qui rentre en quart de finale. Voilà. Mais il n'y a pas d'étincelles qui viennent du banc depuis que Didier Deschamps, si on schématise et si on caricature, mais on caricature pas tant que ça finalement, il n'y a jamais d'étincelles qui viennent du banc. Donc à un moment, il s'est dit, il n'y a pas d'étincelles qui viennent du banc,
on caricature pas. Pourquoi ? Pour aller au moins 5 raisons. France-Équateur 2014, France-Suisse 2016, France-Danemark 2018, et aussi le France-Suisse, le vrai, entre guillemets, de 2021.
Alors, et France-Tunisie.
Et France-Tunisie.
Donc ça, c'est les matchs de coiffeur.
Parce que
plus
France-Tunisie, c'est le France-Suisse de 2021. C'est par l'absurde le moment où là, c'est la seule compétition où il a eu vraiment besoin de ses remplaçants, parce qu'il y a des pépins en tout genre. On avait calculé, je crois qu'il y avait eu 9 blessés mineurs ou plus importants pendant la compète. Et l'exemple par l'absurde, c'est de devoir ressortir Clément Lenglet pour un huitième de finale d'Euro.
Il n'avait pas joué depuis un mois.
Il n'avait pas été concerné. Mais après, est-ce qu'on peut en vouloir à Deschamps de pas leur... c'est très compliqué, parce qu'à un moment, il faut faire des choix et vous installer. Le plus important, ça reste quand même d'installer une équipe type. Au moment où il a été obligé de déroger à cette règle-là, de faire rentrer les autres, il a vu que ça ne fonctionnait pas. Alors évidemment, on pourra parler du cadre, de la défense à 3, etc. Voilà, donc je pense qu'il a sa recette, il sait comment ça fonctionne. Il faut espérer la récupération, que les joueurs pendant une semaine soient encore au top, et espérer qu'il n'y ait pas de suspendu pour la finale. Imaginez, alors là, ce serait la double peine. Vous perdez votre arrière-gauche pour un carton rouge, on imagine, on n'espère pas évidemment. Vous vous retrouvez avec Eduardo Camavinga.
En finale de Coupe du Monde.
Qui, en plus, est remplaçant. Donc déjà, lui, il a un tout petit peu déconnecté. Et en plus, à ce poste-là. Voilà, donc là, il faut vraiment espérer que les 11 aillent jusqu'au bout comme ça. Parce que sinon, ça paraît très compliqué. Imagine le système de jeu argentin qui dit, bon, leur arrière-gauche, ça va être Eduardo Camavinga. On va regarder la vidéo du match face à la Tunisie.
Ouais. Voilà. On serait mal barré. T'as parlé de récupération, Maxime, et je pense que c'est le mot qui va s'appliquer à nous, parce que là on est très fatigué. Si tu étais miroir, je peux te dire, j'irais mettre de l'anticerne.
Ouais, et tu sais que le fameux, ça c'est une phrase que je fais dans la famille souvent quand j'ai envie d'aller me coucher, je dis à ma femme et à ma fille, là on est tous très fatigués, on va aller se coucher. Alors qu'il y a moi qui suis fatigué. Et ça ne marche jamais, mais là on est tous très fatigués, j'assume qu'on est tous très fatigués.
Ah bah là je suis au-delà de la fatigue, je suis dans l'épuisement là. L'épuisement, et ça vient en 80% de ce que tu racontes d'ailleurs.
Comme Mbappé avec le jeu offensif des Bleus.
Exactement. Donc c'est l'épuisement, donc demain pas de FC Stream Team, on revient à la veille de France-Maroc tout de même, ne vous inquiétez pas, je vois que là il y a des gens qui sont à deux doigts de se jeter par la fenêtre.
Alors,
on revient.
A priori, là, on ira jusqu'au
bout du bout.
Bah ouais, parce que la troisième place, faudrait bien en parler.
Ouais, bah alors j'aurais pas envie d'en
parler. J'ai jamais professionnellement couvert de match pour la troisième place avec l'équipe de France.
Bah écoute, on est bien content là.
J'ai pas envie que ça commence.
Ok.
Parce que qu'est-ce que tu fais de ça?
Ouais, troisième place, c'est vraiment le match bâtard.
Parce qu'a priori aussi, c'est le match des coiffeurs, mais plus tard dans la compétition.
Ah, oui, non, ah ouais, ouais. Ah ouais, non.
Bah ouais, voilà.
Épargnez-nous ça. Épargnez-nous ça. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Et nous, donc, on va aller se coucher. Écoutez, il reprend son café là parce qu'il n'est pas bien, Maxime.
Non, je vais vérifier s'il y en avait encore.
Ah bah, il n'y en a plus. Bah non, t'as tout bu pendant l'émission. Voilà, tu nous en fais un petit dernier. Et bah, rendez-vous après-demain, Maxime.
Après-demain.
Après-demain, on est mardi.
Mardi.
Veille de demi-finale de Coupe du Monde. On peut difficilement faire mieux. Si on peut faire mieux, veille de finale de Coupe du Monde.
C'est vrai.
Mais ça, c'est une autre histoire. À mardi.
Salut. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.